Les gens vont redécouvrir ça.
Je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte.
Montaigne was a thug. Montaigne was a thug, rap, littérature et révolution sur Radio Canu, avec aujourd'hui un invité très spécial que nous accueillons, une véritable célébrité dans notre société française. J'ai nommé Quentin le Hardi, fils caché de Philippe III le Hardi, roi des Francs de 1270 à 1285, et de Françoise Hardi, admirable chanteuse encore plus célèbre que son amant de roi. Monsieur le Hardi est aujourd'hui invité à Radio Canu. Car M. le Hardi est un exemple pour tous. En effet, malgré son ascendance mêlant la plus haute noblesse, à la plus petite bourgeoisie, M. le Hardi n'a pas hésité à renier son héritage familial pour rejoindre la cause du peuple. Tout comme l'ont fait Engel, Bakounine, Kropotkin, tout comme l'ont fait les plus grands. Et oui, car c'est un véritable rebelle, en gros thug de la tesse, que mon poteau le Hardi vient nous présenter aujourd'hui, James Guillaume, penseur anarchiste du 19e siècle. Un vrai de vrai, un espèce de barbu suisse, bien charmé, le genre de mec dont on a l'impression qu'à peine né il avait déjà 120 ans et qui parlait grec et latin couramment, le genre de même qui, même à 120 ans, se bat encore pour la révolution comme s'il en avait 20. Bonjour monsieur le Hardi.
Bonjour.
Je me vois honoré de vous accueillir aujourd'hui pour que vous nous parliez de James Guillaume.
Eh bien merci, je ne sais pas trop quoi dire après cette présentation assez échevelée, je dois dire. Mais
cette présentation au plus proche des faits, nous pouvons dire.
Ah, je confirme. Oui, donc je viens effectivement pour vous parler aujourd'hui de James Guillaume. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, il me semblait intéressant de préciser que dans son cas, il aurait préféré se faire qualifier de libertaire plutôt que d'anarchiste.
Ah, donc
pour des raisons que j'expliquerai, pour lui c'était anarchiste.
Vous voulez tout d'abord distinguer anarchisme et libertarisme?
Oh, personnellement je n'y tiens pas particulièrement, c'est simplement qu'à ses yeux le terme anarchiste...
Mais si vous faites une allégation comme ça, il faut justifier.
Non mais je vais justifier, ne vous inquiétez pas. Je disais simplement que dans son cas, précisément, le qualificatif d'anarchiste avait encore un aspect profondément négatif et donc qu'il préférait le terme, à ses yeux plus exact, de socialiste libertaire. Bien sûr, le mot anarchisme était déjà revendiqué à l'époque par un certain nombre de groupes, mais il a également été, on peut dire, popularisé, surtout dans les années 1890, à l'époque donc des attentats, de la propagande par le fait qui n'est pas exactement l'anarchisme, disons, de James Guillaume.
D'accord, très bien. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de James Guillaume, brièvement sa vie, quand est-ce qu'il est né, dans quel univers culturel il se place, dans quel univers historique?
Très bien. James Guillaume, en fait, donc, est né en 1844 à Londres. Donc, il n'est pas né en Suisse, bien que d'origine suisse, puisque son père et son grand-père possédaient une entreprise d'horlogerie qui avait une succursale à Londres. Et donc, il est né à Londres, d'où son prénom de James, effectivement. Voilà. Ensuite, il est revenu assez rapidement en Suisse, donc dans un lieu tout à fait particulier qui est le Jura suisse, qui est une sorte de une des patries des anarchistes de tous les pays, si vous voulez.
Ah bon, parce que la Suisse, on en parle souvent comme la patrie des banquiers, et vous dites que c'est la patrie en fait de l'anarchisme.
Ah, je n'ai pas dit que la Suisse était la patrie de l'anarchisme. J'ai simplement fait remarquer deux choses. Tout d'abord, effectivement, que il y avait certains lieux en Suisse, notamment le Jura, qui ont été des lieux de lutte sociale tout à fait important, et d'autre part que la Suisse a accueilli un certain nombre de réfugiés dont la plupart des pays d'Europe ne voulaient pas, donc que ça soit bien sûr Bakounine, ou bah, on peut penser également pendant la Première Guerre mondiale à Lénine, voilà, même si c'était peut-être pas une très bonne idée.
Mais pas forcément une figure anarchiste.
Voilà, pas trop, non, effectivement. Voilà, donc je disais, il s'est installé dans le Jura suisse, très exactement dans un petit lieu qui s'appelle Fleurier, dans le Val de Travers. Donc c'est un bon endroit pour un anarchiste, le Val de Travers.
Qui va pas tout droit.
Voilà, qui se trouve à proximité de Neuchâtel. D'accord. Donc dans le canton de Neuchâtel. Donc c'est un pays effectivement d'horloger. Vous avez pas très loin non plus une ville, ce qu'on appelait une ville manufacture, c'est-à-dire la Chaux-de-Fonds, qui est une ville également, voilà, qui est un grand centre de l'horlogerie suisse. Donc un lieu quand même très marqué à la fois historiquement et donc également économiquement. Donc James Guillaume possède, disons, un parcours assez atypique, puisque au départ il a, disons, des sympathies pour ce qu'on appelle les radicaux suisses, c'est-à-dire des groupes qui étaient en faveur notamment d'une cohésion plus grande de la Confédération.
Excusez-moi, est-ce qu'il y a un lien entre les radicaux suisses et les radicaux socialistes de France ou pas vraiment?
Alors, au point de vue chronologique, pas du tout, puisque les radicaux suisses sont bien avant les radicaux français. Après, au point de vue des affinités idéologiques, effectivement, il y aurait des parallèles, puisque les deux ont une conception assez proche, deux groupes ont une conception assez proche de la République. Et notamment, les deux se revendiquent de l'héritage de la Révolution française de 1789.
Et d'ailleurs, le personnage dont vous allez nous parler plus tard, Ferdinand Buisson, est un radical socialiste.
Tout à fait. C'est un radical socialiste tout à fait particulier.
Parallèle plus tard.
Voilà. Donc je disais, effectivement, c'est un jeune homme qui possède un certain nombre d'aptitudes, donc qui est très intéressé par la philosophie, fait d'ailleurs des études de philosophie, et également par la
musique. Donc il est d'extraction plutôt bourgeoise.
Oui, on ne peut pas dire qu'il soit d'extraction prolétarienne. Après, j'aurais peut-être du mal à faire une typologie exacte de son milieu social, puisque je n'ai peut-être pas une connaissance assez approfondie de la société suisse, mais étant donné qu'il vient d'une famille qui possédait une entreprise d'horlogerie, qui avait une succursale à Londres, je pense qu'on peut affirmer
au minimum
que c'était un bourgeois. Voilà. Voilà. Après, moyenne bourgeoisie, haute bourgeoisie, ça, je m'avancerai pas. Je dirais plutôt moyenne bourgeoisie, me semble. Voilà.
D'accord. Et donc, vous nous parlez de son parcours atypique. Il a étudié la philosophie. Voilà. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'il s'est vraiment rapproché de l'anarchisme?
Alors, ce rapprochement s'est fait en deux temps. Bon, tout d'abord, il s'est intéressé donc notamment à l'International, à la Première Internationale. Donc, et il a participé à
la date, s'il vous plaît, exacte de
1964.
64,
la fondation de la Première Internationale. Et donc, je disais, il s'est rapproché notamment de plusieurs figures, dont une qui s'appelle Pierre Coulery, qui était le fondateur de la section jurassienne de l'Internationale, qui est un socialiste 48art, on peut dire, et qui était donc ce qu'on appelait un médecin des pauvres. Voilà, donc une figure assez engagée, mais qui n'est pas, disons, aussi radicale que Bakounine. C'est encore un socialisme, peut-être qu'on pourrait comparer éventuellement à celui d'un Louis Blanc. Enfin, voilà, c'est un socialisme démocratique assez modéré, et James Guillaume ira plus loin par la suite. Mais en tout cas, voilà, il y a ce premier rapprochement, et puis aussi ce qui le fait pleinement entrer pleinement participer à l'International, donc en 1867-1868, ce sont ces deux rencontres avec Bakounine. Voilà, donc
la rencontre avec Bakounine qui initie l'ancrage dans l'anarchisme de James Guillaume.
Voilà, elle se fait en deux temps, en fait. C'est-à-dire que la première fois qu'il aperçoit Bakounine, puisqu'il le raconte en détail, puisque Bakounine, on peut dire, a été en quelque sorte l'homme de sa vie, si on veut, avec Ferdinand Buisson. Voilà, n'y voyons pas.
Une histoire de love.
Oh non, je ne pense pas que, connaissant le côté un petit peu puritain de certains protestants, je ne pense pas qu'on puisse se risquer jusque-là. Mais en tout cas.
Mais donc James Guillaume était protestant?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Il était, mais je vais vous en parler après. Puisque là, en fait, la rencontre avec Bakounine et la rencontre avec Buisson est quasi concomitante.
D'accord.
Donc, je disais,
c'est assez spécial d'être protestant pour un anarchiste, si vous
voulez. Oh, c'est pas spécial. Enfin, quand je dis qu'il est protestant, attention.
Il est d'extraction protestante. Il ne pratique plus, pardon.
Il ne pratique plus. Mais son athéisme va venir avec Bakounine, précisément.
D'accord.
Donc, la rencontre avec Bakounine se fait en 1867. Alors, bien sûr, enfin, quand je dis rencontre, ce n'est pas exactement une rencontre. C'est la première fois qu'il l'aperçoit, puisqu'en 1867 a lieu à Genève ce qu'on appelait le Congrès de la paix et de la liberté, qui était un célèbre congrès où venaient un certain nombre de figures européennes en vue d'un projet de lutte contre les empires, donc que ça soit le Second Empire, l'Empire d'Autriche-Hongrie, la Prusse, etc. Donc, il n'était pas encore un empire, mais donc il y avait en tout cas des velléités impériales, si vous voulez. Et donc, ce congrès rassemble les plus grandes figures européennes. Donc, par exemple, vous avez des gens comme Victor Hugo, comme Garibaldi, en vue notamment de la constitution d'un projet qui serait celui des États-Unis d'Europe. Et dans ce cadre-là, Bakounine, à ce moment-là, est invité de ce congrès, et James Guillaume l'aperçoit pour la première fois, et il se rappelle avoir été frappé par ce personnage qui lui semblait extrêmement attirant. Bon, encore une fois, non pas dans un sens érotique, charismatique, mais surtout qui semblait très accessible et très ouvert donc au débat d'idées.
D'accord.
Voilà. La véritable rencontre se fera en fait quand, puisque James Guillaume est devenu membre de l'International avant Bakounine. Ça, elle se fera en 1869, puisque Bakounine sera invité par James Guillaume à venir à Locle, donc qui était la section qu'il dirigeait. Donc toujours, c'est pas très loin non plus de Neuchâtel. Et c'est là vraiment que se produira une rencontre assez importante et une profonde amitié qui demeurera jusqu'à la mort de Bakounine en 1876. Ouais. Correspondance, bien sûr, mais également motion commune à l'international, tract, divers et variés, opposition commune à Karl Marx également, ça on pourra peut-être y revenir.
Oui, on y revient.
Voilà, mais là je vous ai parlé de surtout de Bakounine et pas tellement de Ferdinand Buisson.
Oui, parce que donc c'est pour situer un peu pour les auditeurs. Nous aujourd'hui nous allons parler de James Guillaume et de ses rapports avec un personnage très important qui a été très important surtout au début du XXe siècle. Dans l'institution de l'école laïque surtout.
Tout à fait, et de la loi de 1905.
Et de la loi de 1905, qui est Ferdinand Buisson et qui est un radical socialiste. Et il va s'avérer que ce Ferdinand Buisson va avoir une étroite correspondance, des liens, une amitié même avec l'anarchiste qui est James Guillaume. Et donc là, c'est un peu voilà. Aujourd'hui, à Montaigne-Oiseteug, on explore des chemins encore un peu inexplorés de l'histoire, hein, puisque l'anarchisme, on essaye un peu de montrer que l'anarchisme, c'est pas forcément se situer en dehors de toute politique, en dehors de tout gouvernement, et que les anarchistes, c'est pas seulement des mecs qui sont sur les bancs de l'école en train d'insulter la maîtresse, mais que c'est des mecs qui participent au débat d'idées et à la politique, donc à travers justement les relations avec Ferdinand Buisson.
C'est tout à fait exact. Je me voulais, si vous me permettez, revenir peut-être sur les circonstances de leur rencontre, justement.
On peut parler juste de Buisson, juste situer brièvement.
Bien sûr.
Buisson.
Buisson, si je me souviens bien, est né en 1841.
Ah, il a à peu près la
même âge. Oui, ils sont un tout petit peu plus âgés. Et je sais plus si c'est 1841 ou 1843. Donc ça, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Ça va très mal pour un historien de ne pas connaître ces dates. Mais je travaille sur James Guillaume.
Pour deux ans.
Voilà, bon. Non, ils sont quasiment de la même génération. Et donc, en fait, il se trouve aussi qu'ils ont des origines communes. Puisque Ferdinand Buisson est également un protestant. Alors, la question du protestantisme de Buisson est très compliquée, puisqu'il y a des débats historiques pour savoir exactement si sa famille était originellement protestante ou si c'est une famille qui s'est convertie au protestantisme à l'époque de son père. Bon, ça, c'est, on va peut-être pas rentrer dans les détails, c'est pas très important. En tout cas, Ferdinand Buisson, donc, je disais, est un protestant libéral. Donc, c'est-à-dire des gens qui voulaient une réforme assez profonde du protestantisme. Et en 1866, il refuse de prêter serment, donc le serment de professeur au Second Empire. D'accord. Et il va partir, grâce au conseil de l'historien Edgar Quinet, en Suisse. À Neuchâtel, précisément, à l'Académie de Neuchâtel, la rencontre aura lieu à Locle exactement, mais bon, ça se situe dans ce secteur. Donc ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas très grave, c'est mon goût exagéré du détail, mais ça, encore une fois, ce n'est pas très important. Donc je disais, ce protestantisme libéral, bon, avec d'autres figures, comme par exemple Félix Pécaud ou Julian Stegg, mais bon. En tout cas, ce qu'il faut vraiment préciser dans le cas de Buisson, c'est que c'est quelqu'un qui va pousser ce réformisme protestant très loin, puisqu'il va fonder justement une église protestante qui, à ses yeux, doit être ouverte y compris aux athées et aux matérialistes.
Une église ouverte aux athées. Donc, mais être ouverte, est-ce que les athées vont avoir envie d'y aller dans cette
église ? Ça a été le problème, pas trop en réalité. Mais c'était pour vous montrer qu'en tout cas, aux yeux de Ferdinand Buisson, la morale ne devait pas être utilisée pour soutenir un quelconque pouvoir politique, et qu'au fond, la question de la croyance en Dieu n'était peut-être pas la question centrale, puisque le but de cette église était précisément la réalisation des idées de l'évangile dans la société.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, c'est spécial quand même.
Ce qui attire à ce moment-là James Guillaume, qui a un rapport plus complexe à la fois que Ferdinand Buisson, puisqu'à ce moment-là, il est quand même très intéressé par ses idées, mais à la suite de la rencontre avec Bakounine, il va vraiment penser que la religion, même sous sa forme la plus libérale, est quand même une forme d'aliénation.
Et donc, rencontre avec James Guillaume et cette église protestante se fait avant, véritablement, sa rencontre déterminante avec Bakounine, où il devient...
Se fait en 1868. Cette rencontre et la rencontre avec Bakounine, enfin la rencontre véritable, je ne sais pas la fois il l'a aperçu, c'était en 1869, donc c'est très très proche. Donc bien sûr, mais il a beaucoup de sympathie pour Buisson, puisque Buisson à ce moment-là provoque justement les institutions en place, provoque le clergé, enfin les différents clergés locaux par ses propos, et donc est vu comme une sorte de figure, disons sulfureuse, voilà, qui mêle politique et religion pour la plus grande haine et le plus
encore
grand scandale.
Quelqu'un de très charismatique.
Charismatique, je ne sais pas, parce que quand vous voyez le personnage,
il n'a pas le même coup de foudre.
C'est différent. Disons, Ferdinand Buisson est quelqu'un qui n'a peut-être pas non plus la carrière de Stentor, de Bakounine. Ouais. Voilà, il a sa voix surtout de Stentor, pardon, la carrière de Bakounine. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, effectivement, qui a, disons, une pensée extrêmement originale et extrêmement intéressante, qui fait qu'il reste difficilement classable. Voilà.
D'accord, très bien. Donc, nous avons situé nos deux personnages principaux, là. Nous avons situé James Guillaume et Ferdinand Buisson. Nous allons nous passer une petite musique pour que la révolution dans la tête se fasse calmement et nous reprendrons le débat par la suite.
T'avais jamais entendu de rap français, Youssoupha. Tous les quartiers, tous les bleds, la révolution dans la tête se fait calmement. Salam à tous les tiens qui vivent calmement. La vie nous appartient, on arrive calmement. On est ensemble sur la route à suivre calmement. Vas-y calmement, fais ton bise calmement. Ma réussite, je l'ai mérité dans ma cité. Parfois le fric manque, alors les balancistes la vérité, mais les flics manquent. Si l'histoire s'était frité jusqu'à l'épuisement, l'histoire je l'ai récité avec un mic comme équipement. Tu peux le lire dans mes pigments. J'ai pas toujours été libre, mais je vibre depuis le Big Bang. C'est pas le fricant, je brille quand le bise est fiable. Confond pas la mafia et les petites bandes. Portable Big Bang, mais jamais joignable. Des gueules, je reste distant dans mes témoignages. Ex-habitant du ghetto, je l'espère. Pépère sur des fricants, noir, jeune et fier. On fait des fricants et on s'entretue quand les petits font les titans et nous ressemblent plus. Je peux plus tenir la distance. Si les miens sont tombés ensemble, on se gifte en force et torse bombée. Oh. Salam à tous les tiens qui vivent calmement. La vie nous appartient, on arrive calmement. On est ensemble sur la route à suivre calmement. Vas-y calmement, fais ton bif calmement. Fais pas le bouillant, mon frère, parle calmement. Si on bouille, on se cite et régler calmement. Mais pourquoi tu me vides alors que t'es balmement? Opère calmement, cher calmement. Bouge la tête sur un gros son, l'air nonchalant. Ma jeunesse fout le boxon, l'air nonchalant. Le slick n'est pas une caution pour perdre mon talent. Nique la conseillère d'orientation, je relève mon challenge. C'est comme ça qu'on s'arrange, c'est la tête des débrouillardises. Reste pas les bras ballants quand on t'aide des boulatises. T'es dédicacé à la mise, t'es démonté les tarifs. Y'a les cons, dès qu'on arrive, dès qu'on avise. Hip-hop atmosphère, dès valise. Le pays, on est en mode guerre. Faut qu'il dépénalise les sans-papiers. Puis désemparé, t'es désolé d'en parler. Et démarre au quart de tour pour la monnaie. Au départ, on voulait tout accrocher le sommet. Tu me reconnais, c'est pour les reufs de la tête. 2009, la révolution dans la tête se fait calmement. Salam à tous les tiens qui vivent calmement. L'avenir nous appartient, on arrive calmement. On est ensemble sur la route à suivre calmement. Vas-y calmement, fais ton bise calmement. Fais pas le bouillant, mon frère, parle calmement. Si on bouille, on se cite et régler calmement. Mais pourquoi tu me vides alors que t'es balmement? Opère calmement, cher calmement. On n'a pas brisé l'espoir, on veut s'en tirer. Du Maghreb, d'Afrique noire ou entier. Puisque l'histoire de mon empire s'est empirée. Puisqu'on m'a pillé, je resterai un pilier. Y'a que sur ma famille que je peux me replier. Dans la Zermie, y'a qu'un seul Dieu que je peux prier. C'est pour les Russes et les Russes de ma tête. 2009, la révolution dans la tête se fait calmement. Salam à tous les tiens qui vivent calmement. La vie nous appartient, on arrive calmement. On est ensemble sur la route à suivre calmement. Vas-y calmement, fais ton bise calmement. Fais pas le bouillant, mon frère, parle calmement. Si on bouille, on se cite et règle calmement. Mais pourquoi tu me vides alors que t'es balmement? Opère calmement, cher calmement. Petite escale, dédicacée à toute la jeunesse congolaise.
Venez d'écouter Calmement de Youssoupha sur Montaigne Oise Thug, rap, littérature et révolution sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Nous avons aujourd'hui un magnifique invité, j'ai nommé Quentin Le Hardy, qui est venu nous parler de l'anarchiste James Guillaume et de ses rapports avec le social, le radical socialiste Ferdinand Buisson. Et pendant que vous écoutiez calmement Youssoupha, un auditeur inattendu nous a rejoint dans le studio. Albert Tabu, fidèle de l'émission, qui a réalisé une magnifique émission sur Machiavel, et qui est venu aujourd'hui passer à la question, Monsieur Le Hardy. Bonjour, Monsieur Tabu.
Bonjour, Monsieur Tug, et merci pour l'invitation.
Alors, donc, vous avez une question?
Non, pour l'instant, je suis à l'écoute de la belle voix de Monsieur Le Hardy et peut-être que les questions viendront par la suite.
Oui, je n'en doute pas. Une telle effervescence intellectuelle, les questions ne peuvent que venir. Donc, nous parlions de James Guillaume, libertaire, puisqu'il ne faut pas dire anarchiste, socialiste libertaire, d'origine protestante, on peut dire comme ça, d'origine protestante. Et de son rapprochement petit à petit avec la pensée de Ferdinand Buisson. Donc peut-être pourrions-nous parler des rapports de James Guillaume avec l'Internationale socialiste.
Alors non pas l'Internationale socialiste parce qu'il n'était pas avec des SK, heureusement pour lui d'ailleurs, il serait retourné dans sa tombe sinon. Mais donc avec l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, plus connue sous le nom de Première Internationale, comme nous disions tout à l'heure. Voilà. Non mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, je vous en prie, c'est pas grave. Il était, disons, dans l'Internationale, l'un des plus proches, si ce n'est le plus proche, collaborateur de Bakounine. Seulement, précisément pour cette raison, il va se retrouver au cœur des luttes de factions entre ce que l'on appelle les socialistes libertaires ou socialistes anti-autoritaires et les socialistes marxiens, c'est-à-dire les partisans de Marx au sein de l'Internationale. Donc ça va créer un certain nombre de... Bon, il va y avoir un certain nombre de tensions qui sont à la fois... Je pense qu'on peut dire des tensions idéologiques, bien sûr, sur la manière éventuellement, enfin, notamment la question de l'État.
La manière de faire la révolution.
La manière de faire la révolution aussi, mais je ne pense pas que c'était exactement central. Enfin, quoique si ça l'était.
James Guillaume a quand même une conception de la manière de faire
oui,
la révolution.
Oui, ça l'était effectivement. Non, excusez-moi, ça l'était effectivement dans le sens où, disons, le certain fonctionnement qu'avait pu adopter Bakounine avait déplu à Marx et inversement. Voilà. Donc. Ces luttes de factions également bon, ont un aspect indéniablement personnel et, également, mais sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, on peut dire effectivement qu'il y avait des voilà, je pense vraiment des désaccords idéologiques assez profonds, surtout voilà sur la question de l'État. Il ne s'agit pas de dire bien sûr que Marx était pour l'État et que Bakounine était contre. C'est simplement que entre le dépérissement de l'État et l'abolition de l'État, il y a peut-être quelques nuances. Encore que Bakounine est quand même une vision beaucoup plus subtile de l'État qui voit comme une sorte de bureau d'enregistrement à terme et non pas sa disparition pure et simple. Voilà, c'est-à-dire que simplement c'est la fonction de pouvoir de l'État. Et sa fonction répressive qui doit
dépérissement de l'État, il me parlait que ça me semble que c'est une formule très juste dans la conception qu'a James Guillaume de...
Bah, c'est la formule de Marx, le dépérissement de l'État. Mais
c'est pour ça que c'est surprenant. Il me semble que James Guillaume dit la révolution, elle arrivera quand elle arrivera. Et qu'il ne doit pas y avoir d'action...
Oui, simplement, le dépérissement de l'État est quand même une formule qui, effectivement, en elle-même, et dans la pensée de Marx, c'est assez juste et assez clair, mais quand vous voyez notamment les expériences, disons, soviétiques, il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire que l'État s'est renforcé, et c'est difficile d'imaginer comment un État qui, disons, s'empare de tous les moyens de production, par opposition, par exemple, à une politique autogestionnaire,
peut finir par disparaître.
Peut finir par disparaître. À partir du moment où il se gorge, disons, non pas de vin, mais de structures, c'est assez difficile à envisager.
Il faudrait un opposant marxiste-léniniste pour vous répondre.
Oh, pitié,
pas
ça. Vous connaissez quelques spécimens, je pense que vous pouvez nous en apporter si vous voulez. Non, je disais donc par rapport à cette question. Disons, l'exacerbation des tensions se situe surtout en 1872, au congrès donc de La Haye, où finalement, les socialistes...
À la suite de la Première Internationale, donc
Oui, bon, c'est toujours la Première Internationale, mais c'est-à-dire que les socialistes libertaires en sont exclus. Et donc, c'est le moment
est-ce
où...
Est-ce qu'on peut parler vite fait de cette exclusion de...
Oh. Alors, moi, je vais pas pouvoir vous en parler énormément parce que je travaille donc sur la période qui vient après. Donc, je ne suis pas, voilà, je suis peut-être pas le plus au fait de vous, j'ai pas travaillé sur des documents précis de cette époque-là. Donc, je peux
vite
pas
fait,
vous...
Vite fait.
Bah, toujours est-il, en tout cas, que sur un certain nombre de questions. Comme par exemple la question de l'État et sur également le fait que Bakounine avait eu, disons, certain nombre de, oui, je disais de fonctionnements qui avaient notamment cette idée, par exemple, de révolutionnaire professionnel, qui reviendra en fait un peu plus tard, mais sauf que cette fois c'est Lénine qui s'emparera de cette idée de révolutionnaire professionnel.
Bakounine donc... avait cette idée de révolutionnaire professionnel.
Lénine ?
Non, Bakounine.
Ah, Bakounine. Ben, il ne l'a pas, disons, comme principe suprême, mais en tout cas, il pense que c'est un principe d'organisation qui peut être viable, oui, effectivement.
D'accord.
Voilà. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste de Bakounine, donc voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, je connais mieux Ferdinand Buisson de ce point de vue-là. Voilà. Donc, après cette exclusion, ça va être l'occasion pour James Guillaume donc, de mener une intense activité militante donc pour essayer de reconstruire, notamment avec la Fédération Jurassienne, où il y a des gens comme Kropotkin, par exemple, une nouvelle internationale opposée à Marx. Mais, bon, la mort de Bakounine, quand même, en 1876, va y mettre un coup d'arrêt, puis James Guillaume va quand même ressortir de cette expérience, on va dire, non pas dégoûté du socialisme libertaire, puisque ça, il ne le reniera jamais, mais en tout cas, peut-être de l'action politique dans l'immédiat.
Mode d'action.
Il y reviendra dans les années 1890 et dans les années 1900, encore que d'une manière un peu différente. Mais en tout cas, voilà, il ne va plus, disons, voilà, il ne cherchera jamais à rentrer dans la Seconde Internationale. Et à partir de ce moment-là, il va développer ce qui peut être un petit peu la faille de sa pensée, c'est-à-dire une espèce d'assimilation de Marx à une forme d'esprit allemand à tendance fortement impérialiste. Et donc, qui
à
va
partir
déboucher.
De la mort de Bakounine, en fait.
Avant même déjà une détestation profonde pour Karl Marx. Bon, il nie pas l'intérêt de ses réflexions économiques, bien sûr, mais en tout cas, il rejette la personne de Marx avec une grande violence, ce qui le conduira à une très très grande germanophobie. Et notamment, par exemple, quand même, ce qui est assez terrible pour un anarchiste, hein, bah, un peu comme Kropotkin, au soutien des Alliés pendant la Première Guerre mondiale et au soutien même à l'Union sacrée.
Défensisme.
Voilà. Voilà. Anarchiste défensif, oui, effectivement.
Voilà. D'accord. Ah oui, ça, c'est intéressant aussi.
Mais ça, c'est le côté le plus triste de James Guillaume, malheureusement.
Non, on n'est pas là pour juger.
Non, pardon.
Non, mais si tu veux juger, vas-y. Si vous...
Non, mais voilà, moi je dis ça simplement parce que je trouve ça assez triste qu'un esprit de qui a ce niveau de réflexion et ce caractère encyclopédique, et à mesure qu'il vieillit, commencer vraiment à assimiler ces deux dimensions, c'est-à-dire cette dimension germanique avec cette dimension impérialiste. Après, bon, on n'y peut rien, il y a toujours des fonds culturels peut-être dont on n'arrive pas forcément à se départir et des espèces de réflexes plus ou moins inconscients qu'on développe, mais bon. C'est un peu dommage, on va dire.
La politique n'est pas pure intellectualité.
C'était pas moi que vous l'apprendrez. Voilà.
Donc, non, repartons sur les rapports, le rapprochement avec Ferdinand Buisson.
Alors, à mesure que James Guillaume, en fait, continue de lutter, il opère à nouveau ce rapprochement en 1877 à partir d'un projet. Donc, Ferdinand Buisson est rentré, en fait, peu avant la Commune de Paris. À laquelle il ne participe pas d'un point de vue officiel à la Commune de Paris.
Il se planque.
Non, il se planque pas. Il va même aider des gens. Je veux dire, il connaît très bien. Non. Il connaît un certain nombre de membres avec lesquels il sympathise, comme par exemple Eugène Varlin. Bon, ça lui a pas porté chance. Buisson n'a rien à voir avec ça, mais c'est vrai que. Eugène Varlin, c'est une très jolie figure de la Commune de Paris qui en fait est mort. D'une manière atroce, puisqu'il essayait de sauver des otages, mais d'otages du parti opposé. Et il a été reconnu à ce qu'on dit par un curé. Après, je ne sais pas si l'histoire du curé était tout à fait exacte. Et il a été tué d'une manière assez sordide que je ne décrirai pas ici. À petit feu. Non, désolé, on n'est pas Game of Thrones. Voilà, donc voilà.
Pas de violence.
Pas de violence, voilà.
Monter une oise de teigue.
Voilà.
Et donc, pendant la Commune de Paris, le rôle de Buisson.
Et oui, et il avait des liens donc avec le socialiste libertaire du conseil municipal, effectivement. Mais et ça, voilà. C'est ça, on ne sait pas parce que vous disiez que c'était un radical socialiste. Oui, c'est un radical socialiste, mais l'étiquette radical socialiste, elle a un sens dans les années 1900. Avant, c'était un républicain radical. Et la frontière
n'est pas tout à fait radical.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut dire qu'il était socialiste, enfin qu'il était socialiste au sens premier?
Oui, les socialistes au sens premier, il me semble. Oui, je pense qu'on peut le dire, puisque bon, c'est quand même lui qui avait une très jolie phrase en disant, alors là je vais la paraphraser parce que je n'ai pas la citation exacte, mais en tout cas, que qu'un ouvrier était victime d'une injustice, c'était comme une petite affaire Dreyfus. Donc je ne pense pas que tous les radicaux de cette époque-là auraient dit... voilà,
est-ce que par exemple il est pour des choses comme la collectivisation
ou... Alors sa pensée économique n'est pas tout à fait précisée. En revanche, là où il est, en tout cas par exemple, il était en tant que membre du Parti radical tout à fait opposé à un certain infléchissement de ce parti. C'est-à-dire quand le Parti radical, notamment dans les années 20, bon là il est déjà assez âgé, voulait se dire le parti des classes moyennes. Or pour lui justement, il avait vraiment un attachement viscéral à la défense également de ce qu'on appelle les petites gens, vraiment. D'accord. Donc voilà, il voulait pas du tout que ça devienne un parti de classe moyenne. Donc il avait une position ambiguë aussi. Il était vice-président à un moment du Parti radical au tout début, mais en même temps il était quand même sur une ligne économique beaucoup plus à gauche que celle des radicaux. Donc
et finalement il finit par rentrer au gouvernement, c'est ça qui est surprenant.
Ferdinand Buisson?
Oui.
Non, il n'est jamais rentré au gouvernement. Il est rentré à l'Assemblée. Effectivement.
Oui,
mais c'était pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Il est rentré à l'Assemblée, effectivement, puisque je vous disais, c'était un des artisans, même l'artisan principal, même de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Mais non, il n'a jamais été...
Oui, il n'est pas au gouvernement, il était à l'Assemblée.
Ah oui, c'est tout à fait la même chose quand même.
Oui, mais je sais pas, est-ce qu'il y avait des socialistes, disons, libertaires qui étaient à l'Assemblée, pardon.
Ah non, ça non. Il y a eu Proudhon qui a été député, mais à un moment, mais ça remonte.
Oui,
voilà. Mais
il y a quand même une différence. Je sais pas si, par exemple, James Young aurait accepté un rôle de député.
Non, mais vous allez voir, enfin, à mesure que l'émission progresse, qu'il a accepté des choses à certains moments qui ne sont pas forcément tout à fait libertaires.
Et donc ça, c'est quoi? Il renie
Non, il renie pas, mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment un certain dégoût pour certains modes d'action et un dégoût également, notamment par rapport. Voilà, au parti clérical, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il a participé, c'est sur ça qu'il a rencontré Ferdinand Buisson, ce sont sur des luttes anticléricales. Ils ne sont pas rencontrés au départ sur des luttes socialistes, ils sont rencontrés sur des luttes anticléricales. Donc pour lui, même si c'est fait par ce que les anarchistes appelleraient un état bourgeois, la séparation d'Église et d'État est une bonne chose. Et l'enseignement laïque, a fortiori, est vraiment une très très bonne chose. Voilà.
Donc c'est très intéressant, en fait, finalement, on montre qu'il y a une porosité intellectuelle entre des groupes qui sont...
il y a une porosité intellectuelle d'individu à individu, d'abord, mais également d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... Bon, dans les années 1990, l'anarchisme... je ne prévoyais pas de parler de ça tout de suite, mais allons-y. L'anarchisme, justement, devient, j'allais dire, beaucoup plus tendance, si vous voulez, dans un certain milieu parisien. Vous avez notamment des écrivains.
Dans quelles années ?
Dans les années 1990 surtout. D'accord. Avec notamment en marge du mouvement symboliste.
C'est bizarre parce que c'est le moment où l'anarchisme se radicalise.
Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être pas un hasard forcément, puisque vous avez par exemple un écrivain comme Félix Fénéon, qui est l'auteur des nouvelles en trois lignes, qui sont des petits morceaux très sympathiques à lire, et qui en même temps, a été accusé, bon, il a été acquitté, mais d'avoir fait un attentat. Voilà, donc vous avez même avec Mallarmé venu à la barre pour le défendre. Voilà, il a fait un plaidoyer enflammé. Voilà. Mais encore une fois, cet anarchisme-là, qui se veut, si vous voulez, peut-être un peu provocateur et immoraliste, vous avez Octave Mirbeau également qui est assez proche de cela. C'est pas tout à fait l'anarchisme de James Guillaume, enfin le socialisme libertaire de James Guillaume, qui lui est avant tout à base socio-économique et qui a, disons, des conceptions littéraires qui sont sans doute peut-être plus classiques et moins avant-gardistes.
Littéraires?
Oui.
Des conceptions littéraires?
Oui, des conceptions littéraires.
Pourquoi?
Disons qu'il. Je ne peux pas me prononcer, je connais pas assez ses goûts littéraires, mais d'après ce que j'ai pu lire, en tout cas, de ce qu'il écrivait, il ne se situe pas tout à fait dans le symbolisme ou dans l'idée des avant-gardes.
Voilà. D'accord.
Voilà. C'est pas l'anarchisme tel que pourront le revendiquer, par exemple, avant leur phase communiste, les surréalistes. C'est pas tout à fait cet anarchisme, en tout cas. Bon. C'est un socialisme libertaire à base avant tout socio-économique. Voilà.
Et bon, donc vous disiez, si nous recentrons.
Oui, excusez-moi, on s'égare avec moi.
C'est l'anticléricalisme finalement qui a rapproché James Guillaume.
Alors,
au tout début,
oui, pour leur rencontre, mais pour leur nouveau rapprochement à la fin des années 70, c'est disons plutôt la pédagogie. Donc à ce moment-là, quand je dis pédagogie, les deux termes ne sont pas tellement entre pédagogie et éducation. À ce moment-là, il n'y a pas tellement de distinction comme on pourrait en faire aujourd'hui. Les deux termes sont synonymes.
Et ça voudrait dire quoi?
Pardon ?
Pédagogie ou éducation, pourquoi vous dites ? Moi, je vois pas non plus la grande distinction qu'il y a aujourd'hui entre les deux. Et...
Bah, disons que, notamment, la pédagogie pourrait être vue aujourd'hui, en tout cas, comme, par exemple, une certaine question méthodologique. Alors que l'éducation peut être vue aujourd'hui dans un sens plus neutre, comme simplement le fait d'éduquer, de transmettre un savoir, notamment. Voilà. Vous savez, toute la querelle sur les pédagogistes aujourd'hui. Enfin bon, voilà.
D'accord.
C'est pas très intéressant, mais encore une fois, à l'époque, les deux termes sont quasi synonymes. Donc, voilà, d'accord, ça n'a pas okay. beaucoup de. Enfin, c'est pas un point très, très important.
Pédagogie ou éducation.
Oui, non, mais c'est un certain nombre. C'est ces débats aujourd'hui, voilà, sur le saucisse ou je ne sais pas, ou autre. ou carbonara. Enfin bon, voilà,
sur
si
quoi
vous voulez.
Se centre le débat, alors, sur l'éducation entre James Guillaume.
Alors, il se centre sur un projet que lance Ferdinand Buisson, qui est de faire une sorte d'encyclopédie, donc dans la lignée, bah, voilà, de l'encyclopédie du 18e siècle, dans le domaine éducatif. Donc, ce projet s'appelle le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, donc qui a été, selon le terme peut-être un peu ronflant de Pierre Nora, la cathédrale de l'enseignement
petit
primaire.
Clash Pierre Nora, si t'écoutes.
Non, j'ai pas de clash Pierre Nora, mais c'est vrai que le terme est assez, assez majestueux, si vous voulez. Voilà, et un peu ronflant aussi. Ouais. Mais en tout cas. Donc ça a été vraiment oui une bible des instituteurs, puisque c'est un dictionnaire qui bien sûr traite de questions éducatives, mais a également un certain nombre d'articles historiques, donc et également d'articles scientifiques. Par exemple, vous avez des articles sur le gaz, sur toutes les découvertes de
sur
l'époque.
Sur le gaz, c'est-à-dire ils apprendraient aux instituteurs, disons, à parler du gaz aux jeunes.
Oui, ça pourrait avoir cette utilité, par exemple, c'est-à-dire de produire un savoir établi avec les connaissances les plus avancées de l'époque dans tous les domaines. De manière à ce que les instituteurs, mais pas que les instituteurs, d'ailleurs également les citoyens puissent, bon, c'est principalement destiné aux instituteurs, mais puissent justement avoir des connaissances. Bah, c'est oui. Dictionnaire pédagogique et d'instruction primaire, donc d'accord. C'est principalement destiné à cette catégorie. Donc en fait, ce dictionnaire c'est un contrat qu'a passé Ferdinand Buisson avec la maison Hachette. Et ils
donc
ont
quelle année à peu près le projet est né?
Alors le projet est né vers 1876 et James Guillaume a donné son accord en 1877 pour y participer.
D'accord, okay.
Seulement son rôle va devenir d'autant plus important par un effet de calendrier. C'est-à-dire qu'en 1879, vous avez l'arrivée de Jules Ferry donc au ministère de l'instruction primaire et des beaux-arts, et donc il va faire appel à Ferdinand Buisson, et donc Ferdinand Buisson ne pourra plus diriger ce projet. Et donc c'est James Guillaume qui, à la suite donc d'un certain nombre de déceptions politiques, disons, va venir à Paris sur l'invitation de Ferdinand Buisson et va donc devenir le directeur, le secrétaire de la rédaction, si vous voulez, de cette nouvelle encyclopédie.
Il remplace un peu Buisson.
Voilà, et il est également un des rédacteurs, puisqu'en fait Buisson à ce moment-là a été nommé directeur de l'enseignement primaire. Donc par Jules Ferré, et c'est un poste qu'il occupera même bien après le départ de Ferry, de 1879 à très exactement 1896, si je me souviens.
C'est presque un poste de gouvernement, finalement.
Oui, c'est presque un poste de gouvernement, mais du coup ça va avoir d'autres impacts, disons, par rapport à ces relations libertaires, puisqu'il n'y a pas que James Guillaume. Encore une fois, James Guillaume, c'est le libertaire le plus proche, puisque James Guillaume va lui présenter un de ses amis qui s'appelle Paul Robin. Que vous connaissez peut-être.
Non.
Et bon, bah tant pis. Et donc, on va en parler un petit peu. Et donc, parce qu'en fait, Ferdinand Buisson avait avait participé à la fondation d'un orphelinat, donc notamment à Saint-Puy, voilà, dans le nord de la France. Et il va justement confier ses fonctions de direction de l'orphelinat à Paul Robin en 1882.
Donc,
et donc, vous aurez un libertaire qui va appliquer pour la première fois une pédagogie libertaire. Dans un orphelinat école, donc. Et là,
c'est
vous avez.
Quoi vite fait pour voir une.
Ah, ben, on va en parler parce que ça va, ça, c'est un. Ça, ça a donné quand même des résultats assez intéressants, puisque c'est la première. Il me semble que c'est la première fois, en tout cas en France. Bon, j'attends d'être détrompé par un auditeur mécontent, on ne sait jamais. Que.
Le téléphone est là.
Pratique la coéducation. C'est-à-dire la mixité des sexes. Donc déjà, ça, c'est quand même très très avancé. Vous voyez, dans les années 1880, la mixité des sexes. Et c'est précisément ça qui va créer de gros qui va provoquer des problèmes pour Paul Robin. Puis c'est également une éducation qui n'est pas, disons, exagérément patriotique. Et qui, voilà, veut prouver, dans une veine peut-être un petit peu hygiéniste, puisque par exemple, Paul Robin était également un promoteur, donc, de ce qu'on appelle excusez-moi, j'ai oublié le terme de, du malthusianisme, voilà. Enfin, pas du malthusianisme, du néo-malthusianisme, c'est-à-dire pas de la pensée horriblement réactionnaire de Malthus, mais de l'idée qu'il faut également, par exemple, diffuser de la contraception et que la population mondiale n'a pas forcément vocation à s'accroître indéfiniment. Voilà. D'accord. Donc une forme d'hygiénisme, la question du corps également est assez importante, voilà. Vous avez également un très très bon ouvrage que je peux vous conseiller là-dessus, sur Sans Puits, dont je n'ai pas le titre ici, de Christiane de Meulener, qui est...
Cuba Christiane.
Voilà, qui était tout à fait remarquable, voilà, sur Sans Puits.
D'accord. Bon, alors, nous, au niveau des repartons sur les accointances, Guillaume Buisson. Ce dictionnaire, finalement, quelle est son influence sur, je sais pas, sur les décisions du gouvernement, sur l'attitude des instituteurs?
Alors ça, je n'ai pas, je pourrais faire une étude entière là-dessus.
Vous avez dit que ça a été, je sais pas, la Bible des instituteurs.
Oui, non, c'est le titre. En fait, il y a deux éditions. C'est-à-dire qu'il y a une première édition, c'est publié en plusieurs volumes, mais là, l'édition finale est en 1887. Et il y a une réédition à laquelle participe également James Guillaume, de moindre volume, donc vraiment beaucoup plus restreinte, en 1911. Voilà, donc c'est vraiment surtout dans les années 1900,
oui.
Et un petit peu avant également. Mais surtout puisque Ferdinand Buisson,
lorsque la République laïque s'installe.
Oui, lorsque la République laïque s'installe, c'est concomitant, ça fait partie de ce processus, puisque Ferdinand Buisson est également quand même participe tout à fait aux lois de Jules Ferry sur la gratuité de l'enseignement, la gratuité, la laïcité de l'enseignement primaire public.
En quelle mesure est-ce qu'il participe? Qu'est-ce qu'on retrouve finalement de la pensée de James Guillaume dans...
Non, je dis de Ferdinand Buisson.
Ah pardon, de Ferdinand Buisson dans...
Non, mais c'est pas grave. Bah, de Ferdinand Buisson, c'est-à-dire que c'est quand même lui, c'est l'un des artisans de cette loi, de ces lois. C'est-à-dire que voilà, il est vraiment... puisqu'il est directeur de l'enseignement primaire. Donc vous voyez,
À quoi on voit qu'il est finalement influencé par des idées libertaires? Ou pas? Est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on le voit pas?
Alors... Ce serait vite dit. Il est influencé par des idées socialistes, ça c'est indéniable. L'aspect libertaire, en fait, la véritable, disons, alliance de pensée, si vous voulez, c'est le domaine éducatif. Voilà. C'est-à-dire que les idées de Paul Robin ne sont peut-être pas seulement une expérience qui serait éventuellement profitable pour l'enseignement laïque. Il y a une véritable communauté de pensée, disons, avec entre, par exemple, James Guillaume et Ferdinand Buisson sur ces questions. Et ben voilà, la nomination de Paul Robin n'est pas un hasard, puisque quand justement Ferdinand Buisson aura des problèmes à cause de Paul Robin, enfin non pas à cause de Paul Robin lui-même, mais à cause de des idées de Paul Robin, puisque dans les années 1890, il y aura ce qu'on appelle l'affaire Sans-Puits, c'est-à-dire que le journal antisémite d'Édouard Drumont, La Libre Parole, lancera des dénonciations impitoyables contre Sans-Puits, voilà, encore un symbole de la juiverie internationale, enfin bon, voilà, vous imaginez.
Donc,
c'est
surtout dans l'établissement de
et attaquant Buisson à travers Paul Robin également, et Buisson justement menacera de, bon, il n'aura pas à le faire, mais menacera de quitter ses fonctions,
ce que
justement.
Ce que je veux dire, c'est que la matérialisation des idées libertaires, elle se retrouve surtout dans la création de cet orphelinat, c'est ça?
Notamment, effectivement. Notamment, voilà. Après, c'est sûr je pense qu'on peut dire qu'il y avait que les affinités entre Buisson et les libertaires, outre les affinités personnelles, puisqu'il en connaissait un certain nombre, comme je vous ai dit, connaît également Élisée Reclus, qui est un grand savant et qui participe donc au dictionnaire de pédagogie. Mais en tout cas, ces affinités, effectivement, sont surtout, sont essentiellement dans le domaine éducatif, et dans le domaine économique, il faudrait voir plus en détail, mais je sais pas.
D'accord.
Si, voilà.
On verra ça après une petite pause musicale, tout en paix, en légèreté.
Merci.
Comment se conjuguer l'amour, et puis un jour j'ai pris le temps, j'ai appris. Parfois le bonheur se trouve là, j'ai devant toi, ok c'est rare, mais il se peut qu'il arrive. Et quand il est là, faut le saisir. Non, ça n'a pas le prix. Oui, quand il est là, faut le saisir. Non, ça n'a pas le prix. On va improviser un truc, trouvons un peu de thune. T'as combien sur toi? Pas grand chose, moi non plus. Trouvons un lieu, un peu de zik, un peu de nourriture. Pour ceux qui fument, pour ceux qui boivent, un peu de fourniture. Le cerveau sur pause pendant ce laps de temps. Accordons-nous de ne plus penser durant ce court instant. On défonce les sourcils et on plonge dedans. On lâche un vrai sourire, celui avec les dents. Le bonheur est une luciole qui brille dans nos nuits. On aimerait le gars.
soir est une babiole, je le fuis comme l'ennui. Vous pouvez vous le garder, j'ai autre chose à regarder. Ça fait, j'ai jamais su comment c'est conjuguer l'amour. Et puis un jour j'ai pris le temps, j'ai appris. Parfois le bonheur se trouve là, juste devant toi. Ok, c'est rare, mais il se peut qu'il arrive. Et quand il est là, faut le saisir. Non, 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 ça, ça n'a pas de prix. Oui, quand il est là, faut le saisir. Non, 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 ça, ça n'a pas de prix. J'ai jamais su comment se conjuguer le rire. Et puis un jour, j'ai trouvé des amis. J'ai jamais su comment se conjuguer l'amour. Et puis un jour j'ai trouvé une famille. Donne un peu de toi et tu verras, on te le rendra. Ça, ça n'a pas de prix. Donne un peu de toi et tu verras, on te le rendra. Ça, ça n'a pas de prix. On va décortiquer le truc. En fait c'est assez simple. Le bonheur c'est l'équation entre le temps et les tiens. Partagé entre les souvenirs et les rêves. Les regrets et les projets, on ne fait jamais de trêve. Pendant ce temps le bonheur passe comme un train de campagne. Qui roule doucement, qu'on peut prendre, mais on regarde les montagnes. Peu importe ce qu'il y a dans le plat, un bon repas de famille. Contente-toi déjà de ça, point à la ligne. Le bonheur est une luciole qui brille dans nos nuits. On aimerait le garder, on peut juste le regarder. Le confort est une babiole, je le fuis comme l'ennui. Vous pouvez vous le garder, j'ai autre chose à regarder. Ça fait, j'ai jamais su comment se conjuguer l'amour. Et puis un jour j'ai pris le temps, j'ai appris. Parfois le bonheur se trouve là, juste devant toi. Ok c'est rare, mais il se peut qu'il arrive. Et quand il est là, faut le saisir. Non, 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 ça, ça n'a pas de prix. Oui, quand il est là, faut le saisir. Non, 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 ça, ça n'a pas de prix.
De This is la peste sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Émission Montaigne, Oise Thug, rap, littérature et révolution, avec un nouvel invité qui vient de rejoindre cette magnifique émission autour de James Guillaume. Un invité encore une fois fidèle de l'émission, un invité à chaque musique, c'est ça en fait le contexte, le concept de l'émission, et qui est Paul Bismuth. Bonjour monsieur Bismuth.
Bonjour, bonjour à vous monsieur Thug, je suis ravi d'être là une fois de plus.
Ah, ça se voit à votre magnifique sourire. Et donc nous allons repartir sur cette discussion passionnante autour de l'anarchiste, non pas, excusez-moi, du socialiste libertaire James Guillaume et de ses accointances.
Accointance, c'est un peu ambigu ça aussi, yes, et on sait
oui.
Pas.
Oui, parce que finalement...
Il faut qu'on arrête avec les métaphores gays, ça va plus.
Finalement, le libertarisme se retrouve peut-être sexuellement. Qui sont ouverts.
Faire un travail de recherche dessus, là, ouais.
Si vous voulez, j'ai de la poésie amoureuse de James Guillaume qu'il écrivait à sa fiancée ici même.
Un petit poème là.
Pour justifier son.
Vous êtes chaud.
Si vous voulez.
Quelques vers.
Oh, quelques vers.
Allez-y, allez-y.
C'est adressé à Rose Borel. En fait, c'est dans son journal. Donc, c'était une jeune fille qu'il appréciait dans sa jeunesse. Voilà. Donc, tout un jeu de séduction extrêmement compliqué au vu des mœurs de l'époque. A eu lieu, donc là c'est un petit poème qu'il lui avait écrit un soir. Mets ta robe grise, sombre nuit là-haut, souffle froid de bis, nous sommes au chaud. Les petites aux fées, frissonnant cachées au creux d'un noyer, le lutin timide met sa tête humide au coin du foyer. Mets ta robe grise, sombre nuit là-haut, souffle froid de bis, nous sommes au chaud. Le moineau qui vole, du vent se désole, qu'il fait froid dit-il, et la fleur qui gèle à grand cri appelle le soleil d'avril.
Mets ta robe grise, sombre nuit là-haut, souffle froid de bise, nous sommes au chaud.
Oh, bravo, ah. Bravo. Du rap et de la poésie.
Oui, voilà. Bon,
Montagne,
après,
moise, thème,
c'est ça, André Breton, mais en tout cas, c'est très mignon. Puis bon, je trouve que ça permet de montrer un petit peu l'influence peut-être d'un certain romantisme à l'époque. Voilà, notamment... Voilà, non pas Ortiz libertaire, mais le...
Non, mais je sais pas, sur la pensée libertaire, c'est ça.
Non, sur James Guillaume, c'est-à-dire que ce moment-là, bon, ouais, il habite à Neuchâtel, on est au bord du lac, la Martine n'est pas loin, vous avez Goethe un peu plus loin, Werther, voilà.
D'accord.
Personnage comme ça.
D'accord. Voilà. Donc, recentrons le débat qui était jusqu'à présent magnifiquement cadré, d'une main de maître par moi-même, hein, je tiens à préciser. Pff,
ouais, bien sûr.
Et donc, oui, et nous parlions de ce dictionnaire pédagogique lancé par Ferdinand Buisson, auquel a largement contribué James Guillaume. Donc ce dictionnaire pédagogique est fait de nombreux articles dont l'influence de la Révolution française se fait sentir.
Alors, je voulais préciser deux choses. D'abord, qu'il y a quand même beaucoup de rédacteurs. Il y a plus de 50 rédacteurs. D'accord. Puisque, comme je vous disais, il faut également être capable de produire des articles sur les découvertes scientifiques les plus avancées. Donc, vous avez, par exemple, bien sûr, des géographes, également libertaires, un géographe en question, Élisée Reclus, bien sûr. Mais vous avez également des scientifiques. Vous avez aussi des gens qui ne sont pas forcément, du bord politique de Fernand Buisson, encore moins de James Guillaume, puisque vous avez Monsieur Fay, qui est un ancien recteur du Second Empire. D'accord. Mais qui avait des connaissances, effectivement, dans le domaine pédagogique, qui étaient susceptibles d'intéresser ce dictionnaire. Voilà, donc c'était ça. Donc, en fait, la participation au dictionnaire de James Guillaume, en soi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus frappant.
Finalement, c'est quoi ce dictionnaire? C'est un peu un patchwork, s'il y a chacun qui peut mettre... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dominance libertaire?
Non. Je sais pas si on peut dire qu'il y a une dominance libertaire. Il y a différentes historiographies. Là, vous avez également un très bon ouvrage de Patrick Dubois là-dessus, qui explique très très bien le fait qu'il y a plusieurs historiographies à l'intérieur. Vous avez...
Dubois de Boulogne?
Une historiographie libertaire, donc, avec James Guillaume. Mais vous avez aussi des choses qui sont plus... moins avancé, disons, politiquement. En tout cas, le côté révolutionnaire précisément de la participation, c'est que les articles qu'a écrit James Guillaume, dans leur immense majorité, traitent de la Révolution française. Donc vous avez un article sur la Convention nationale, vous avez un article sur, par exemple, Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, donc qui était un conventionnel qui a été assassiné, donc, et qui est un des penseurs, peut-être un peu moins connu aujourd'hui que Condorcet, de l'éducation sous la Révolution française. Donc il y avait on parle notamment du plan Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui était un plan, disons, éducatif assez avancé, d'une forme des.
Donc
forme
dans ce genre d'article, on peut ressentir vraiment la pensée libertaire de Guillaume.
On peut ressentir
Est-ce qu'il fait une historiographie libertaire de la Révolution française?
L'historiographie libertaire de la Révolution française, la personne la plus connue qui en ait fait une, c'est Kropotkine. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il s'inscrit. Parmi les libertaires.
Elle est plus tardive.
Un tout petit peu plus tardive, oui. Mais on peut voir en tout cas un intérêt. Après, l'historiographie révolutionnaire de. Enfin, libertaire, pardon, excusez-moi, de Kropotkine est centrée avant tout sur des courants, disons, je ne sais pas si on peut dire marginaux de la Révolution française, enfin pas forcément marginaux, mais en tout cas qui ont été laissés de côté au profit des grands hommes par l'historiographie. C'est-à-dire notamment ce qu'on appelle les exagérés. Donc des gens comme par exemple Hébert, Chaumette, etc. Donc, dans le cas de James Guillaume, il y a cet intérêt, effectivement, pédagogique, mais on retrouve cette passion, disons, pour la réhabilitation, puisqu'après, il va faire deux autres activités, donc la publication des procès-verbaux du comité d'instruction publique. Est-ce que c'est de la législative? Non, c'est de la Convention nationale. Donc, qui présente justement les débats en matière d'éducation qui ont lieu à ce moment-là, et également ce qu'on appelle des études révolutionnaires qui s'attachent notamment à faire une histoire de la Révolution française et à défaire un certain nombre de légendes, ou de ce qu'ils considèrent être comme des légendes, et à réhabiliter des figures comme par exemple Chaumette. Donc, notamment, qui était un membre des leaders de la Commune de Paris, donc, pas celle du 71, mais celle de la Révolution.
Que Buisson pourrait contresigner ou...
Pas forcément. Disons qu'en fait, je pense que ce qui les rapproche, et c'est peut-être la petite distinction qu'on peut faire, elle est légère quand même avec Kropotkine, c'est que, il y a quand même un côté jacobin chez, bien sûr, il défend aussi les exagérés, mais on peut dire que, il y a quand même cette fascination pour la Révolution française, tant chez Buisson que Guillaume, et notamment cette idée qu'il y a quelque chose à construire et que la République est à construire, enfin surtout pour Buisson, dans la lignée des Jacobins. Encore une fois, quand je vous le disais, il était radical dans les années 1860, James Guillaume, bon, radical helvète, hein, bien sûr, oui. Suisse, mais... Bon, voilà, il y a quand même, je pense, plus que une simple alliance, disons, de circonstances, comme on l'a un peu pensé. Par exemple, au début, on pouvait s'interroger sur l'étrangeté, disons, de cette collaboration. Or, quand on regarde, on se rend compte, outre, bien sûr, la question du protestantisme, qui est une espèce de débat lancinant qui revient jusqu'à la fin, puisque même quand Guillaume est malade et va sur le point de mourir en 1916, ils s'écrivent encore des lettres, notamment sur cette question protestante, où Buisson, disons, interroge l'athéisme proclamé de James Guillaume. Voilà, donc on peut avoir une vision assez, de leur divergence. Mais l'autre aspect, bien sûr, c'est la révolution.
Ce que vous dites, c'est que finalement, les catégorisations politiques, là, elles sont pas opérantes, c'est sûr.
Bah, elles sont opérantes, simplement. Elles sont opérantes, simplement. Le problème, c'est d'avoir voulu, voir les anarchistes sous la seule figure peut-être du terrorisme ou d'avoir voulu les voir en dehors de la République. En dehors de l'État, ils le sont clairement, bien qu'après, dans le cas de Guillaume, voilà, encore une fois, ce soit très flou, mais disons, c'était au départ des socialistes libertaires, donc c'est aussi une vision de... Quand on parlait pendant la Commune de la sociale, c'est la République sociale.
Oui.
Donc voilà, mais simplement République pas au sens forcément étatique, si vous voulez.
Et donc alors, quelle serait la distinction majeure entre Guillaume et Buisson ? Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose qui devait fondamentalement les séparer ? Qu'est-ce que vous diriez ?
J'ai pas très envie de les séparer, ma petite personne, parce que justement, moi, plus j'avance et plus je me rends compte...
Alors pourquoi l'histoire les a séparés, si vous préférez poser la question ?
L'histoire les a pas séparés, l'histoire simplement n'a pas vu les accointances, il faut utiliser ce mot qui est un peu particulier, qu'il y avait entre les deux, en fait. Voilà, c'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'on a retenu Guillaume pour un livre qui est l'International Documents et Souvenirs.
Que vous montrez magistralement.
Que je
vous
montre magistralement, même si
voir.
Les auditeurs, malheureusement, ne peuvent pas le voir. Donc, il est en deux tomes, et très exactement, qui raconte l'histoire de l'International, mais d'une manière, justement, ça s'associe la méthode Guillaume assez originale, c'est-à-dire qu'au lieu de raconter d'un point de vue narratif cette histoire, il va simplement produire et reproduire donc la plupart des tracts, la correspondance qui s'échangeait avec Bakounine et avec d'autres acteurs à ce moment-là pour voir exactement quelle était la teneur des débats et pas juste raconter ma vie, mon œuvre, ma version des faits. D'accord. Et c'est pour ça que ce document est vraiment exceptionnel. Alors après, bien sûr, il y a des passages un petit peu controversés, il y a des passages qui, a posteriori, notamment par des historiens comme Marc Vuillemier, ont été qualifiés, disons, un petit peu orienté, où il s'arrange un tout petit peu avec les faits pour s'en prendre aux autres. Mais bon, il n'empêche, c'est quand même une méthode très intéressante. Et en fait, il fait pareil justement avec la Révolution française, c'est-à-dire qu'au lieu de vous faire une histoire lyrique, disons, il s'attache précisément à travailler avant tout sur des documents et à partir de ces documents, à tirer des conclusions et surtout à s'éloigner de cette tendance à la légende qu'on avait fait la Révolution française. C'est-à-dire que vous avez, je suis sûr que chacun de nous peut raconter des anecdotes plus ou moins sordides sur à peu près chaque leader de la Révolution, comme avant, on pouvait également parler des fureurs utérines de Marie-Antoinette qui était...
Donc là, si vous êtes en train un peu de nous vendre, monsieur Lardy, c'est James Guillaume, grand historien.
Je sais pas, parce qu'après, je ne cherche pas à vous vendre quelque chose en particulier, je cherche simplement à montrer que sa méthode, disons, a quelque chose d'intéressant. Après, il montre bien sa sympathie, et on peut très bien apprécier James Guillaume sans pour autant apprécier des personnages comme Hébert et Chaumette, qui sont quand même pas des saints laïcs, voilà. Voilà, et qui avait quand même un goût pour la violence assez prononcé, que je ne partage pas à titre personnel.
Alors, monsieur Hardy, moi j'aurais une question. Je sais que vous êtes un historien, les faits à la théorie, mais quand même, quelles sont vos idées personnelles en politique comment vous situez-vous par rapport à ce James Guillaume
Disons que je pense que si j'aurais, disons, un goût pour le socialisme libertaire, ce serait peut-être pas celui exactement de James Guillaume. En revanche, moi, ce qui me plaît chez James Guillaume, c'est cette volonté, disons, de construire quelque chose et de ne pas être dans une simple opposition de principe et une opposition stérile. C'est-à-dire qu'il a bâti des choses, même si, bien sûr, ses idées politiques n'ont jamais été réalisées. Il a contribué quand même d'abord ses connaissances et son érudition à l'histoire de la Révolution française, mais également à l'évolution de la pensée, politique de son époque. Voilà. Après, à titre personnel, je peux en avoir assez pour bien en avoir assez de vous répondre, mais disons que oui, moi j'ai une, même si après je suis plus, peut-être plus attiré par les idées anarchistes, avant-gardistes des années 20 ou des années 1890. Bien sûr pas l'aspect terroriste, mais bon, le reste, ou un certain esprit peut-être un petit peu caustique, moi qui m'amuse beaucoup chez des gens comme Fénéon ou d'autres. On peut en tout cas dire que voilà, James Guillaume est une figure qui mérite d'être découverte. Voilà.
D'accord, merci. Donc, monsieur Le Hardy.
À titre personnel, je pense qu'on peut résumer. Monsieur Le Hardy dort avec un tableau de James Guillaume.
Voilà, quand même pas, quand même
globalement,
pas.
Globalement, on va
pas.
Dire ça.
Quand même pas, quand même pas.
Mais si nous revenons dans ce débat de fond.
Oui.
Vous avez parlé de cet orphelinat, il faudra rappeler le nom.
Sans-puits.
Cet orphelinat Sans-puits.
Qui se trouve à Sans-puits.
Qui est une matérialisation donc, des idées finalement libertaires. Enfin,
c'était une expérience.
Concrétisation, oui.
Voilà.
Et on va peut-être parler d'une seconde expérience qui sont les universités populaires.
Oui. Alors ça, je tiens tout de suite à préciser que James Guillaume n'est pas à l'origine des universités populaires. Si vous voulez, pour les universités populaires, vous avez des gens comme par exemple Madame Napias.
Michel Onfray.
Oui, Michel Onfray, quoi qu'on pense du personnage, effectivement, a repris à Caen effectivement cette idée des universités populaires, et c'était clairement une référence aux universités populaires de cette époque-là. Oui, donc ça,
Qu'est-ce que c'est les universités populaires?
Je vous explique dans un instant. Je dis effectivement, on peut reconnaître. Je réponds à notre auditeur qui s'en va. Michel Onfray, de ce point de vue-là, et d'autres universités populaires avec Philippe Corcuff, notamment à Lyon, sont dans la lignée de universités populaires. Oui, donc je dis universités populaires avec des gens comme Georges de Herve,
bisous, Albert
Tabias, au revoir. Voilà, était effectivement.
Au revoir, chers auditeurs, et à la prochaine fois.
Voilà, une volonté, disons, de proposer un autre type d'enseignement, et surtout pour des gens qui n'ont pas forcément. Bon, vous avez également les cours du soir à ce moment-là, pour des gens qui n'auraient pas forcément le temps. Ou l'argent de faire des études longues, d'aller au théâtre, puisque par exemple dans les universités populaires, bon, vous avez des pièces de théâtre qui sont jouées, par exemple, donc où les gens peuvent aller, vraiment cette idée d'apporter la culture et d'élever le niveau, si on veut, par la culture. Voilà. Et dans le cas de James Guillaume, il était donc un adhérent de l'université populaire, qui s'appelait Union Populaire, puis ensuite Université Populaire, du 14e arrondissement de Paris.
D'accord.
Qui était donc menée par Madame Napias. Voilà. Je vous dis Madame Napias parce que j'ai oublié le nom et le prénom, excusez-moi. Donc voilà, vous la reconnaîtrez. Voilà. Si vous la cherchez, il n'y a pas beaucoup de Napias. Ou Napias, je ne sais même pas comment ça se prononce en fait. Voilà.
Donc il a contribué en tant que professeur, c'est ça?
Alors, sa contribution, justement, moi, c'est ça qui m'a posé problème dans ma recherche jusqu'à présent. J'ai surtout vu qu'il recevait, disons, des programmes et qu'on le sollicitait éventuellement pour des conférences, voilà, essentiellement.
Mmh.
Voilà.
Donc c'est pas... Oui, d'accord.
Ça, c'est dans les années... Sa correspondance va des années 1887 au début des années 1900, à peu près. Donc c'était vraiment la grande époque des universités populaires. En fait, l'Union populaire précède les universités populaires. La grande montée en puissance des universités populaires, c'est lié à l'affaire Dreyfus, surtout.
D'accord.
Puisque c'était une volonté, quand on avait vu cette espèce de déferlement antisémite complètement délirant à la suite sur l'affaire Dreyfus, justement, c'était un moyen d'éduquer, disons, et de sortir. Bah, c'était un peu ce qu'avait tenté de faire. C'était le projet de départ de Michel Onfray puisqu'il a fondé, je crois, cette université populaire à Caen, à la suite de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour.
Ouais,
voilà, bon,
dit,
depuis,
ouais.
Il a un petit peu. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a dévié de son objectif, mais disons c'est devenu quelque chose d'assez personnel. Mais au départ, le but était vraiment, celui-ci.
Voilà. Donc l'affaire Dreyfus. Monsieur Bismuth, vous avez l'air de vouloir réagir.
Non, je suis dans l'écoute. Non.
Très bien. Donc maintenant, on va peut-être passer à la deuxième phase, Guillaume, celle qui suit quoi en fait, à quel moment on peut dire qu'il y a rupture avec rapprochement du gouvernement?
Ah non, il n'y a pas une rupture nette, c'est juste que en fait il y a deux choses. Encore une fois, il va jamais soutenir des gens comme Clémenceau, par exemple. Je veux dire, jamais, ce serait vraiment impossible. En revanche, il va revenir un petit peu à la politique, parce qu'il faut pas oublier que dans les années 1880, à part des gens comme Élisée Reclus, bon, qui fréquente bien sûr à cause du dictionnaire de pédagogie, il s'est coupé de quasiment tous ses amis libertaires, ce qui prouve qu'il avait quand même pas une volonté de rompre avec ses idées, mais une volonté, disons, de s'éloigner un petit peu
du milieu,
du milieu, si vous voulez, oui, en quelque sorte, pour se consacrer à ça. Bon, c'est vraiment jamais autant heureux que quand il y a énormément de travail. C'est de ce point de vue-là, c'est vraiment oui, c'est un bourreau de travail, on peut dire, James Key. Voilà. Donc, en fait, elle se fait en deux temps. D'abord, il y a l'émergence du syndicalisme révolutionnaire, qui a cédé donc avec des gens comme par exemple Émile Pouget, la jeune CGT, donc en fondée en 1895. Et vous avez également donc, vous avez à ses yeux, disons à ce moment-là, une réactualisation. Enfin, il pense que c'est une réactualisation en fait des idées des socialistes libertaires. Donc, il est très heureux, disons, de cette volonté de faire par la base et non pas de chercher forcément à créer des partis politiques ou voilà.
Il est très enthousiasmé par la création de la CGT.
Voilà, il est tout à fait enthousiasmé par la création de la CGT. Puis après, il y a une autre rencontre qui va être décisive, c'est la rencontre avec Jean Jaurès. Puisque même si on ne classifie pas Jean Jaurès, on classe pas pardon Jean Jaurès parmi les socialistes libertaires.
Non, ça fait encore une porosité là.
Voilà, il va y avoir de grandes affinités, voilà exactement entre les deux. Et notamment, faut pas oublier que Jean Jaurès est quand même l'auteur d'une histoire socialiste de la Révolution française, et qu'il a quand même un intérêt pour des figures comme Robespierre, les Jacobins. Donc encore une fois, vous voyez cette idée de vouloir forcément, comme vous disiez, cloisonner ce milieu vole assez vite en éclat quand
finalement on trouve des points de convergence, ce qui sont souvent.
Après, ça veut pas dire qu'ils sont tous les mêmes et qu'il y a des nuances bien sûr entre eux, mais il y a des idées communes. Puis surtout, je pense que ce qu'il admire chez Jean Jaurès, c'est une forme, disons, de probité intellectuelle. Et puis le fait également que s'il a un intérêt, par exemple, pour des idées marxistes ou marxiennes, si vous voulez, il ne va pas, disons, se déclarer marxiste, suivre aveuglément la doctrine. Enfin, il y a une forme, disons, de... Bon, il méprisait Jules Guedt, par exemple, détestait Jules Guedt. Vraiment, enfin, c'était... Ou même, il n'appréciait pas non plus le socialisme très avancé d'un Gustave Hervé. Donc, qui lui n'était pas exactement marxiste, mais qui était antipatriotique, très provocateur. C'est pas du tout quelqu'un de provocateur. James Guillaume, il avait un slogan qui était assez clair, c'est-à-dire radicaux dans l'action, modérés dans la polémique. Voilà.
Donc c'est à partir de cette double la CGT, la création de la CGT, rencontre avec Jean Jaurès, qu'on peut dire que Guillaume change. C'est ça.
Pas tellement de changement au cours de sa vie. C'est juste qu'il va pouvoir revenir à la, disons, un petit
à
peu
la
plus
politique.
Action politique, puisque quand vous voyez les dossiers de la préfecture de police.
C'est quoi donc cet incident tout ça, parce qu'il donne envie de revenir à la politique, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Dans les années 1880, quand vous voyez les dossiers de la préfecture de police de Paris, il ne rencontre aucune personnalité particulièrement subversive. Il travaille tout le temps. Enfin bon, voilà, il y a pas. Il y a des choses. Bon, après, il y aura des interruptions également de ses participations, puisqu'il a des drames personnels, bon, sur lesquels pas forcément la peine de revenir en détail, le décès de sa fille, enfin bon, dans les années 1990. Voilà. Donc oui, il y a vraiment une volonté de se réengager. Mais, en même temps, il a, par exemple, un certain goût pour le combat toujours en faveur de la laïcité. Et donc, au moment de la loi de 1905, il n'hésite pas, par exemple, à soutenir ce projet. Il explique à Kropotkin, qui, à ses yeux, déclare que le plus urgent, ce serait de faire la révolution sociale, que non, c'est... Bon, ça, c'est son côté réformiste, si vous voulez, que c'est très important, et que vraiment, plus on exclura l'Église, plus on exclura l'Église du champ politique, plus la révolution sociale se rapprochera en quelque sorte. Parce qu'en fait, vous avez deux idées, notamment au moment de la séparation de l'Église et de l'État et sur l'enseignement laïque. Vous avez des anarchistes qui sont un peu oubliés aujourd'hui, qui sont pas forcément très intéressants, comme Mauritius, par exemple, qui, eux, déclarent en quelque sorte que, non pas qu'il faut s'allier avec les cléricaux, mais que la lutte des cléricaux contre le monopole de l'État est une bonne chose, puisqu'elle leur ouvre la voie à eux. Et qu'en fait, il faut lutter également contre l'enseignement laïque, puisque l'enseignement laïque est le fait de l'État et donc veut abêtir les enfants, en quelque sorte.
D'accord.
Enfin, les priver, c'est pas abêtir les enfants, c'est pas exactement ça, je suis un peu imprécis.
Tous les anarchistes ne sont pas laïcs.
Si, ils sont tous laïcs ou athées, simplement. Leur problème, c'est l'État. C'est toujours cette question de l'État, en fait, qui est épineuse. C'est-à-dire que pour eux, le problème, c'est que ça vienne de l'État. Voilà. Et donc, du coup, ils considèrent que les cléricaux font bien de protester, puisqu'au moins, ils luttent pour une bonne chose, c'est-à-dire le refus du monopole étatique sur l'enseignement. Et ça, c'est vraiment aux antipodes de la pensée de James Guillaume, puisque, quand même, moi, c'était je sais pas si on peut dire un scoop, mais dans une lettre en 1906, donc adressée au comité de l'UP du 14e arrondissement, il déclare: « J'ai l'habitude moi-même, pour empêcher le candidat réactionnaire de passer, d'aller déposer mon bulletin dans l'urne en y inscrivant au second tour le nom du candidat socialiste ou radical qui a obtenu le plus de voix au premier tour. » Vous voyez,
c'est le Front républicain d'aujourd'hui, en fait.
Comment ?
C'est ce qu'on appelle le Front républicain aujourd'hui.
Oh non, je pense quand même pas qu'on puisse, parce que bon, le Parti socialiste n'est quand même pas à la pointe aujourd'hui du... Bon, ils ont fait le mariage gay, qui était une bonne chose. Mais après, je veux dire, on peut pas dire qu'il soit non plus à la pointe.
Non, mais je veux dire, voter pour quelqu'un qui ne correspond pas finalement totalement à notre idéologie.
Oui,
mais
quand on dit, quand il dit quand même, bon, les radicaux, c'était peut-être à cause de Ferdinand Buisson, mais quand on dit socialiste à l'époque.
Oui, non, mais je veux dire, bien sûr, c'est pas les socialistes d'aujourd'hui.
C'est quand même autre chose, oui.
Non, c'est la même démarche, je veux dire.
Oui, c'est sûr.
Ce que vous vouliez dire, c'est que c'est pas tous les anarchistes, qui feraient ça. D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup d'anarchistes qui votent.
Je crois pas, aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, mais à l'époque.
Il dit pas qu'il vote systématiquement à toutes les élections, mais en tout cas, qu'à certaines, voilà, quand ça lui paraît vraiment important, oui, il est pas du tout dans la politique du nini, ça c'est certain.
Voilà. D'accord. Bon, ben donc sur la question de la laïcité, est-ce qu'on peut aller plus loin,
je pense pas qu'on puisse rajouter grand-chose. Voilà, c'est sûr que pour lui c'est un combat fondamental et donc il s'est vraiment investi dans ce combat à ce moment-là, notamment en 1905 pour
l'en faveur. Et ça s'est traduit, un engagement politique s'est traduit par quoi en fait ? Il a fait quoi concrètement ?
Bah concrètement, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, il s'est pas présenté à la députation, mais en tout cas, au sein du mouvement anarchiste, il a veillé à ce que on puisse en tout cas entendre, disons, ce son de cloche.
Voilà.
En tout cas, c'était un combat vraiment important, et notamment, enfin, il s'est pas opposé à Kropotkine violemment, simplement, Kropotkine ne comprenait pas vraiment, et il lui a expliqué ce qui lui semblait être un contresens par rapport à ça que faisaient certains anarchistes. Voilà.
Ah, d'accord. Okay. Voilà. C'est dans place dans cette controverse avec les autres anarchistes dont vous avez parlé, qui sont finalement contre un État laïque.
Oui.
D'accord. Oui. Bon, ben, on va se faire une dernière petite pause musicale avant une dernière partie conclusive. Et voilà.
Tu sais quoi aussi?
Qu'est-ce qu'il y a?
Putain, c'est la merde dans le quartier, t'as vu ça?
Ah oui, tout est pété. Ils nous ont laissé que des MJC, c'est grand fatigué. Sur la vie de Maras, moi je veux peser, je veux des billes. On va avoir des Mercos, on fera des Bracos, et on en tirera les tasses. Vas-y, fais pour ce la vie, que je sois chiré, parce que franchement, je suis.
La dynam d'abord. Vas-y, tiens. Cherche-toi, mon frère.
Vieux! T'as été parfait ou imparfait, à présent je fais. J'suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans le cerveau. Un des genoux qui pour la maillot vie c'est devenu pro. Trop de blême pro dans mes propos, j'me la joue escroc. Devant les flics j'vais oser, à la Kaiser s'oser. L'ardinéman, fait que mes chétanes, plane au moins en bécane. Tu nous testes, on te tanne, tu contestes, on te canne. À l'armée, tire l'alarmée, c'est les flics sortent leurs armes. Comme à Parme, Palerme, le drame a son charme. Loin du plus ouf, tu dis pas ouf, on s'en fout, on te fout. J'ai faim et comme dit Ahmed,
un pour tous. Tout sur un.
Élevé au rap, ragarat, aux êtres là à la tape. Aux soirées, cité, ciné, série télé où les autres ont été pris. Tu verras, je réussis, je serai celui qui brille et claque. En pleine pénurie, je ris de tes faux pas, maintenant le monde est à moi.
Trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées.
Dans des villes t'es tenté,
par la fonce et l'argent ancré.
L'illicite ainsi taxiste,
rien ne suscite la réussite.
Trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées.
Dans des villes t'es tenté,
par la fonce et l'argent ancré.
L'illicite ainsi taxiste,
rien ne suscite la réussite.
Je veux rentrer dans les soirées, le schlasse dans la poche pour charcler. Péter les pétasses à la pelle, comédie Barclay. Rap à fond dans ma caisse large avec mes bottes. Captain spot de hache, estouffer les poufs que je kidnappe. Blatt dans mon appart, je rêve de sabrer le mot wet. Petchi le cul posé sur du marbre, casino black. Jack sa blindé au schnapps joué. Fric caisse s'il le faut, même ma femme au craps. L'Italo Arisa, encaisse les francs Visa. Fais passer son ça pour un livreur d'allo pizza. Sale face de rascal comme équipe, clic clic tombe les vis. Si tu résistes, tu repars en slip vis. Me jeter dans mon jet 27. Dans ma pogne, mal poli, roté à table. Comme Al Capone, péter le ballon dirigeable. Nick Hala, touche pas à Haza, le monde est à moi.
Trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées.
Dans des villes, t'es tenté,
par la fonce de l'argent ancré.
L'illicite ainsi taxiste,
rien ne suscite la réussite.
Trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées.
Dans des villes, t'es tenté,
par la fonce de l'argent ancré.
L'illicite ainsi taxiste,
rien ne suscite la réussite.
Marre de guetter, galérer, goûter au gain. Veulent les gamins de rien partir.
partir, grossir, devenir quelqu'un, le rêve ricain, comme l'état des tournées, faire tourner un canton suisse, défiler en boubou, 14 juillet, sur les Champs-Élysées, un chef afro, à fond le son de Kofi Olomidé, dans un Jaguar immatriculé, NP, Toc, Léopard, gris-gris, scarifié au jour, je foutrais le sac à sac à, dans le petit Robert, comme dans Julia Passy aussi, elle me donnait des banquets, banquets, embarqué avec des bouquets, des poupées, dans mes baraques, casqués, Mercos, garde baraque et Klebs, pute privée, sauver les miens, des galères sur le pavé, des GAV, des gens gavés, crevés d'entravés dans mon quartier, je veux entendre AV, putain, rouler un pays à la Berlusconi, l'Italie liée à Forza Italia, Samifa et le monde à
trop
soi,
trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées,
dans des villes en détentées,
par la fonce de l'argent ancré,
l'illicite incite excite,
rien ne suscite la réussite,
trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées,
dans des villes en détentées,
par la fonce de l'argent ancré,
l'illicite incite excite,
rien ne suscite la réussite,
trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées,
dans des villes en détentées,
par la fonce de l'argent ancré,
l'illicite incite excite,
rien ne suscite la réussite,
trop de morts dans les quartiers,
trop de cannes plantées.
Montaigne was a thug. Rap, littérature et révolution sur Radio Canu. Avec aujourd'hui conclusion de notre émission sur James Guillaume en compagnie de Quentin Le Hardy et de Paul Bismuth. Et nous allons donc conclure sur James Guillaume en parlant de la fin de son action politique et de son positionnement dans la Première Guerre mondiale, vis-à-vis de la Première Guerre mondiale.
Oui, ben ça, en quelque sorte, j'allais dire, c'est la... Enfin, de mon point de vue, mais encore une fois, c'est un point de vue personnel, donc je pense, l'historien que je suis devrait éviter
devrait
de porter...
Se taire.
Voilà, devrait se taire et éviter de porter des jugements.
Non.
Mais c'est justement le ralliement à l'Union sacrée, puisque si vous vous souvenez un peu plus tôt, je vous avais parlé de son hostilité, qui est vraiment plus qu'une hostilité, une franche détestation de Karl Marx, qui justement s'est traduit par une espèce, disons, d'essentialisme germanophobe qui est devenu de plus en plus important à mesure qu'il vieillit.
Et pas d'antisémitisme ?
Non. Pas que je sache, en tout cas. Non. Surtout à l'université populaire, l'affaire Dreyfus, non, ça.
Oui, c'est.
Non. Ah, d'antisémitisme. Ah oui,
alors
oui,
ça, Bakounine, c'est rien.
À partir de là, on finit par à partir de la génération Guillaume, Kropotkine, on se départit, disons, de l'antisémitisme des aînés Bakounine et Proudhon, qui lui était effectivement particulièrement délirant, surtout Proudhon, de ce point de vue-là. Donc, à ce moment-là. On observe, disons, à mesure que, disons, le conflit mondial se rapproche, une déposition de plus en plus claire, disons, de James Guillaume de ce point de vue-là, et une hostilité envers les socialistes allemands. D'abord les socialistes allemands parce qu'ils ont à nouveau veillé à l'expulsion des anarchistes, ou du moins à l'exclusion des anarchistes de la Seconde Internationale. Il n'y en avait pas beaucoup, mais en tout cas, c'était, voilà, Auguste Bebel était, voilà, peut-être dit que l'antisémitisme était le socialisme des imbéciles, mais il n'en était pas moins assez impitoyable dans certaines circonstances. Et donc,
Auguste Bebel, c'était le chef des socialistes allemands.
Un des chefs, oui. Et donc, qui a veillé, voilà, à évincer les libertaires. Et donc, à ce moment-là, James Guillaume, voilà, fait toujours des lettres de protestation sur l'expulsion des libertaires en Allemagne, donc du parti, et est franchement hostile, vraiment, au SPD allemand et aux socialistes allemands, qui pour lui sont les héritiers directs de Karl Marx. Il ne veut pas du tout qu'il y ait des nuances entre eux, et pour lui, ce sont vraiment des gens qui sont en plus ou moins à la remorque du Kaiser
Jugement un peu hâtif, finalement, c'est ce qu'on nous dit.
Un jugement un peu hâtif, en tout cas, bon, remarque que les socialistes français ne font pas beaucoup mieux au moment du vote des crédits de guerre et l'Union sacrée, mais toujours est-il que les socialistes allemands et le SPD voteront les crédits de guerre. Après, il y aura une personne qui justement, après, refuse. Enfin, je crois c'est Karl Liebknecht, en fait, dont je parle. Je crois qu'il les vote la toute première fois, mais qu'ensuite il le. Enfin, je veux dire, il s'y oppose les fois suivantes, il me semble. Mais bon, ça, encore une fois, je suis pas spécialiste du SPD, donc voilà. Mais par exemple, au moment du conflit mondial, quand Karl Liebknecht, seul contre quasiment avec Rosa Luxembourg, bon, qui, elle, n'était pas députée, s'oppose justement fermement à l'entrée, enfin au soutien du SPD à lui, enfin à la politique de Guillaume II. Il déclare que Liebknecht, en fait, que c'est une manœuvre. C'est-à-dire que Liebknecht, en réalité, fait ça pour tromper son monde et pour faire croire qu'en fait, c'est le dernier article qu'il publiera, en fait, qui est horrible d'ailleurs. C'est un article de, vraiment, ça, s'il se montre pas à son avantage, c'est un article de calomnie sur ce pauvre Liebknecht, surtout quand on connaît la fin de Karl Liebknecht. Bon, voilà, c'est pas très, c'est assez triste.
C'est quoi sa fin?
Il est tué pendant la Révolution allemande avec Rosa Luxembourg.
D'accord.
Voilà. Donc, il est assassiné. Donc, bon, ce qui prouve quand même qu'il ne s'est pas contenté de voter les crédits de guerre et que ce n'était pas un autre NOSC ou d'autres ministres qui étaient assez bellicistes. Voilà. Donc là, vraiment, il se rallie à l'Union sacrée. Mais en fait, il faut encore une fois, bon, il y a le cas personnel de James Guillaume, mais il ne faut pas uniquement le voir d'une manière isolée. Lui, simplement, des anarchistes, c'est celui qui ira le plus loin. Mais bon, vous avez aussi quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup, qui n'est pas anarchiste, qui est Gustave Hervé, qui va quand même rebaptiser son journal La Guerre sociale, La Victoire, à la fin de la guerre, quand même. Enfin, bon,
c'est pas une position finalement très, très atypique.
Bah, ce qu'on appelle le défensisme. Voilà. Et Kropotkine, par exemple, signera avec d'autres figures libertaires françaises, comme Charles-Ange Lézan, par exemple, le manifeste des 16, qui n'appelle pas les anarchistes à rentrer au gouvernement, puisque ça n'aurait pas de sens pour des anarchistes, mais en tout cas, qui prend nettement position en faveur des alliés au nom d'une lutte contre ce qu'ils appellent le militarisme allemand. Voilà, qui serait un danger pour l'Europe dans son ensemble. Mais encore une fois, dans le cas de James Guillaume, ça a quand même une certaine logique, puisque voilà, il dit très bien qu'il préfère un État laïque, une République laïque, à un empire. Voilà, dans le cas voilà, de James Guillaume. Donc là, c'est le dernier aspect, disons, dernier cycle, si on veut, de la vie de James Guillaume. Bon, il participe quand même un peu avant, en 1911, à la nouvelle édition du Dictionnaire de la Pédagogie. Jusqu'au bout, il continuera à traduire des choses pour Ferdinand Buisson, par exemple, qui a besoin d'envoyer des documents à des universités. Bon, il parlait anglais, allemand, français. Bon, ça, c'est la chance d'être suisse, ça permet de... voilà, on s'est confronté très tôt à différentes langues. Bon, je veux dire, enfin, encore une fois, c'est pas forcément parce qu'il était suisse, puisque c'est pareil pour Kropotkine, pareil pour Marx également, qui parlait plusieurs langues. Enfin, bon, c'était la petite blague du jour. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est vraiment, oui, le dernier engagement de James Guillaume en faveur de cette union sacrée, et que peut-être là, il a dépassé simplement l'idée un petit peu réformiste qu'il avait introduite dans le socialisme libertaire, si on veut.
Il va encore plus loin que le réformisme.
Je sais pas s'il va plus loin que le réformisme, mais en tout cas, il s'éloigne, de disons, plus en quand plus même de... du. Voilà, mais comme.
D'une doctrine internationaliste aussi.
Comme Kropotkine, oui, il s'éloigne de ça. Bon, après, Kropotkine lui-même. Il reste anarchiste, hein, je veux dire, c'est pas comme certains socialistes.
Est-ce qu'on peut dire anarchiste modéré? Est-ce que ça aurait un sens?
Je crois pas trop, non, mais. Je crois franchement pas. Non pas que, mais anarchiste radical n'aurait pas de sens non plus. Enfin, bon, voilà, je veux dire, c'est simplement un corps de doctrine. Après, je pense que l'idée d'être modéré ou radical, c'est aussi une question de tempérament personnel. Il me semble.
Peut-être, oui, peut-être.
Voilà.
Peut-être.
Voilà, donc sa mort en 1916. Il est mort en 1916. Donc,
en plein milieu de la guerre, donc il n'a pas vu la fin de la guerre.
Il n'a pas vu la fin de la guerre. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il n'a pas signé le manifeste des 16, puisqu'il est un peu avant. Voilà. Voilà,
sinon,
voilà.
Il l'aurait sans doute signé. Ça.
Ah, on ne peut pas se prononcer, mais bon, vu tel que c'était parti, voilà. J'avais des chances, on va dire. Voilà.
D'accord, donc nous concluons alors cette émission sur James Guillaume. Merci à vous, monsieur Le Hardy.
Ben de rien, on se reverra une prochaine fois, j'espère.
Voilà. Et ben oui, vous êtes le bienvenu. Merci. À Mountain Was a Thug. Je tiens à spécifier à mes auditeurs que vous pouvez retrouver les podcasts sur mon site qui est enfin un peu bien mis, un peu joli. Qui est Mountain Was a Thug, blog Radio Canu. Enfin, vous tapez sur Google ou sur votre un autre explorateur si vous en avez, si vous avez l'intelligence de penser à un autre truc que Google. Vous tapez blog Radio Canu, Mountain Was a Thug, et vous trouvez assez facilement. J'ai aussi depuis peu, attention, une page Facebook Mountain Was a Thug. Donc voilà, si vous voulez retrouver les podcasts, si vous voulez écouter du son, et puis voilà. Sinon, à lundi prochain. Et un dernier petit son pour que tout le monde soit content. Si j'en ai un, je vérifie. Oui, je n'ai pas mis celui-ci. Donc, on est parti.